VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, mercredi 27 juin 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont convenu d'un cessez-le-feu permanent. Au Mali, une enquête de l'ONU sur la mort de 12 personnes a conclu à des exécutions sommaires. Au Togo, le dialogue entre l'opposition, le gouvernement et le parti au pouvoir a repris après 3 mois de suspension. Ici aux États-Unis, Donald Trump demande au Congrès d'approuver une loi sur l'immigration. Et puis l'Allemagne, éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde. C'est du jamais vu depuis les années 30. Notre rendez-vous football, c'est dans 10 minutes, juste après ce journal. Actualité oblige, nous ouvrons sur le Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont convenu à Khartoum d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Nathalie Barge.
Salva Kiir et Riek Machar ont signé le document appelé la déclaration de Khartoum en présence du président soudanais Omar el-Béchir. Les discussions entre les deux hommes devront se poursuivre pour parvenir à une entente au plan politique. Les pourparlers ont suivi un sommet des États d'Afrique de l'Est à Addis Abeba, au cours duquel les leaders sud-soudanais avaient été sommés de trouver un terrain d'entente. L'ONU leur avait donné jusqu'à fin juin pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions. Des accords précédents de cessez-le-feu ont échoué, comme en 2016, l'année où Riek Machar est parti en exil. Après son indépendance en 2011, le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013. Salva Kiir avait accusé son vice-président d'alors, Riek Machar, de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Des centaines de milliers ont trouvé refuge au Soudan et en Ouganda.
République démocratique du Congo, l'audience du procès en cassation dans l'affaire dite des mercenaires qui oppose Moïse Katumbi au ministère public a été renvoyée au 10 octobre. Raison évoquée, les irrégularités soulevées devant la Cour suprême de justice par la défense. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Devant sept juges de la Cour suprême de justice, le camp Katumbi, composé d'une trentaine d'avocats en l'absence de ces derniers, a révélé plusieurs irrégularités dans la saisine. Selon le conseil de l'opposant congolais, son client n'a pas été atteint par l'officier de justice. Il n'a donc pas été régulièrement saisi, soutient-il. L'exploit qui avait notifié Moïse Katumbi au domicile où il n'habitait plus est irrégulier, la personne de Katumbi étant à l'étranger. En matière pénale, l'accusé doit comparaître lui-même, a dit le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi, l'un des avocats de Moïse Katumbi. Face à cette irrégularité, les juges de la Cour de cassation ont décidé de renvoyer l'affaire au mercredi 10 octobre courant. Les avocats de l'opposant congolais, candidat à la présidentielle de 2018, dénoncent par ailleurs l'absence de leurs clients, empêchés selon eux de revenir au pays pour des raisons politiques. Ce procès s'est déroulé en présence de nombreux soutiens de Moïse Katumbi, poursuivis dans cette affaire depuis mai 2016 pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, l'épidémie d'Ebola se stabilise dans le nord-ouest du pays. Aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré depuis le 6 juin dans la province de l'Équateur, d'après le ministère de la Santé. En revanche, les autorités s'inquiètent d'une flambée de choléra avec 103 morts dans le centre du pays. Togo, le dialogue entre l'opposition, le gouvernement et le parti au pouvoir, l'Union pour la République, a repris à Lomé après 3 mois de suspension sous l'égide des facilitateurs, les présidents guinéens et ghanéens. Le point sur place avec Aïe Lawson.
Les deux facilitateurs, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé, après la séance d'ouverture, ont échangé d'abord avec la délégation du parti au pouvoir, Union pour la République Unie, en présence des membres du gouvernement. S'en est suivi les discussions avec la délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition. Le président guinéen a appelé les deux partis à faire des concessions. Alpha Condé.
Notre objectif, c'est d'accompagner la classe politique togolaise à trouver une solution pacifique pour le bonheur du peuple togolais. Évidemment, on peut avoir des objectifs, mais dans les négociations, ce n'est pas possible de s'entendre si chacun ne fait pas des concessions. Si chacun veut absolument avoir la satisfaction de tous ces revendications, on ne trouvera jamais de solution.
Notons que les deux présidents doivent soumettre au prochain sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une feuille de route de sortie de crise. La coalition de l'opposition a fait savoir qu'elle suivrait les directives de la CEDEAO si et seulement si celles-ci vont dans le sens de ce que désire le peuple, c'est-à-dire le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir en 2020. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Une enquête de l'ONU sur la mort de 12 personnes dans le centre du Mali a conclu à des exécutions sommaires. Cette enquête a été diligentée à la suite d'une patrouille pendant laquelle un militaire malien a été tué. Yacouba Ouédraogo.
L'enquête de la MINUSMA a permis de conclure que, le 19 mai, des éléments du bataillon malien de la force du G5 Sahel ont sommairement et ou arbitrairement exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessi, a affirmé la mission de l'ONU dans un communiqué. Le rapport a été transmis au gouvernement selon Mahamat Saleh Anadif, chef de la MINUSMA. Il a appelé les autorités maliennes à s'assurer que l'enquête judiciaire en cours puisse s'effectuer dans les meilleurs délais. Le représentant de l'ONU a exhorté les troupes maliennes et la force du G5 Sahel à conduire leurs opérations conformément au droit international et à protéger la population civile. Peu après les faits, à la suite de la mort d'un militaire malien lors d'une patrouille sur un marché de Boulkessi, l'armée a d'abord parlé de 12 terroristes neutralisés alors qu'il s'agissait de civils selon des habitants. Elle a ensuite évoqué le 7 juin la neutralisation de 12 personnes et l'ouverture d'une enquête.
Plus de 200 morts dans le centre du Nigeria. Des violences entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens ont éclaté au cours du week-end. Bilan donné par le gouverneur de l'État du Plateau qui attribue ces violences à des membres présumés de l'ethnie peul. Une association de peuls a rejeté ces accusations. En représailles, des jeunes de l'ethnie Bérom, agriculteurs chrétiens, ont élevé des barricades entre Jos et Abuja. Au moins 6 personnes ont été tuées. Le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa accuse les partisans de sa rivale et ancienne première dame Grace Mugabe d'avoir fomenté l'attentat dont il est sorti indemne le week-end dernier, un mois avant les élections générales. Guinée équatoriale, l'ONU a salué la tenue du dialogue national prévu mi-juillet auquel elle participera comme observateur. Sachez également que Théodore Tabaro, suédois d'origine rwandaise, a été condamné en Suède à la réclusion à perpétuité pour sa participation au génocide de 1994 au Rwanda.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Maroc, c'est l'incompréhension après la condamnation à de lourdes peines de prison des meneurs du mouvement Irak qui avaient mené des séries de manifestations dans la région du Rif en 2016 et 2017. Claire Morin-Gibourg.
C'est un simulacre de justice, a tweeté l'Association marocaine des droits de l'homme, tandis que quelques médias marocains ont souligné la sévérité des peines. Nabila Mounib, figure de la gauche au Maroc, a fustigé ces décisions désastreuses de l'État qui menacent la stabilité et la cohésion du pays, selon ses termes. Les autorités marocaines, elles, ont assuré que le procès s'était tenu conformément aux normes de la justice internationale, en présence d'observateurs internationaux et de médias. À l'issue d'un procès fleuve de 9 mois, la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca a condamné hier soir Nasser Zefzafi, le leader du mouvement Hirak, et 3 de ses compagnons à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. 49 autres militants ont reçu des peines allant jusqu'à 15 ans de prison.
L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a poursuivi au Maroc sa deuxième tournée dans la région. Lors de sa visite à Rabat, il devait rencontrer le premier ministre et le chef de la diplomatie, selon l'agence officielle MAP. Sa tournée se poursuivra dans le territoire appelé par Rabat, province du sud du royaume et qui couvre les 2/3 du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole dont le statut n'a pas encore été réglé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Tout de suite, c'est le journal du mondial, signé Nicolas Pineau.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous. Le Brésil de Neymar et Coutinho face à la Serbie depuis presque
85 minutes de jeu et pour le moment c'est le Brésil qui gagne et qui se qualifie en gagnant 2-0 grâce à des buts de Paulinho et de Thiago Silva. Dans l'autre rencontre, la Suisse fait match nul avec le Costa Rica, un but partout. Ce seraient les Suisses qui seraient qualifiés si on en restait là. Dans l'autre groupe, le groupe F, coup de tonnerre, l'Allemagne championne du monde en titre éliminée dès le premier tour. Les Allemands avaient pourtant leur destin entre les mains, mais ils se sont inclinés 2-0 dans les arrêts de jeu contre la Corée du Sud. Dommage pour les Allemands qui ne profitent pas du faux pas du Mexique battu sèchement 3-0 par la Suède. Dans ce groupe F, la Suède termine donc première, le Mexique deuxième, la Corée du Sud troisième et les Allemands derniers à la différence de but. Scénario aussi à suspense hier soir dans le groupe D. L'Argentine a crucifié les espoirs nigérians dans les ultimes minutes. Lionel Messi a inscrit un premier but dès la 14e minute de jeu. Mais en seconde mi-temps, c'est Moses qui a inscrit le but de l'égalisation nigériane sur penalty. L'Argentine qui a poussé et qui est repassée devant pour finalement trouver la faille à la 86e minute de jeu. Marcos Rojo, d'une frappe limpide du droit, libère tout un pays. Ce même Rojo, auteur d'une main dans la surface de réparation. Mais l'arbitre, assisté par la vidéo, a estimé qu'elle n'était pas volontaire. Immense déception pour le Nigeria qui avait son destin entre ses mains. J'ai joué à Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, qui se dit fier de son équipe.
C'est un manque de réussite parce qu'on méritait autant que les Argentins d'être qualifiés. Il y a eu aussi cette histoire de pénalty et d'arbitrage vidéo. Il y avait à notre avis une main flagrante qui aurait dû donner un penalty, mais l'interprétation là de cette vidéo a été, à mon avis, une faute, puisque c'était un penalty très clair pour nous. Ça aurait pu faire 2-1. Et à ce moment-là, on était pratiquement qualifiés. Donc ça tient à peu de choses. Mon équipe a fait un très bon match. Il a fallu un coup du sort à la fin pour que nous perdions ce match. Mais vraiment, les joueurs n'ont pas démérité. Il y a une équipe qui a de l'avenir, qui joue bien au football. Voilà, c'est un challenge maintenant que d'aller vers la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine.
Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles. Les Croates, leader du groupe et déjà qualifié, ont battu l'Islande 2-1. En huitième de finale, on aura donc la Croatie qui affrontera le Danemark et l'Argentine face à la France. Les Français, auteurs d'un match nul ennuyeux contre le Danemark 0-0. Défaite 2-0 de l'Australie face au Pérou. Enfin, demain aura lieu la grande finale du groupe G entre l'Angleterre et la Belgique. La Tunisie tentera de sauver l'honneur face au Panama. Anglais et Belges, deux favoris pour le titre, comme le résume le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouet.
Bonsoir. Dans le groupe G, où l'équilibre n'est pas parfait et où on s'attendait à des confrontations déséquilibrées, les Panaméens et les Tunisiens ont choisi de nous faire des largesses inhabituelles à ce niveau aux redoutables attaquants belges et britanniques. Ce qui va conférer au match au sommet Angleterre-Belgique un arrière-goût de finale de poule tronquée, les matchs précédents passant pour des prolongations de matchs de préparation et la confrontation des deux gros cylindrés se transformant en véritable entrée en matière. En d'autres termes, tous les superlatifs qui ont accompagné ces deux formations truffées d'individualité incontestable et d'un potentiel offensif d'exception vont prendre leur juste valeur face à des systèmes défensifs beaucoup plus conformes collectivement aux grandes joues qui permettent de mieux évaluer les performances de haut niveau. Mais rien ne garantit que le match Belgique-Angleterre ne se réduise à un simple galop d'essai et revue d'effectifs en attendant les oppositions moyennes que proposent les équipes du groupe H relativement abordables. Alors, match soporifique ou festival offensif, la suite va nous le confirmer. À bientôt.
Merci Jules Valentin. Dans le groupe H, le Sénégal a son destin entre les mains et doit battre ou faire match nul avec la Colombie pour se qualifier. Co-leader de ce groupe, le Japon affronte la Pologne déjà éliminée. On retrouve Amdinsi, envoyé spécial en Russie de VOA Afrique aux côtés du Sénégal.
Cette confrontation entre Lions de la Teranga et Cafeteros de la Colombie semble fort à une finale du groupe H. En effet, la Colombie doit impérativement battre le Sénégal pour valider son ticket pour les huitièmes de finale, alors que le point du nul suffit au point d'Alou Cissé pour décrocher le temps. Une défaite est toutefois interdite au Lion du Sénégal. Le Sénégal d'ailleurs jouera pour tout le continent, car tous les représentants de l'Afrique sont éliminés. L'espoir de tout un continent repose désormais sur les lions de la Teranga. Mais la tâche ne sera pas facile pour les Sénégalais qui auront en face une très bonne formation colombienne gonflée à bloc après sa belle victoire face à la Pologne. Mais le Sénégal a toujours son destin en main et fera tout pour obtenir une victoire, à défaut un match nul, afin d'éviter un fiasco total à l'Afrique. Amédine Sy, Samara, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, Morgane. Prochain point sur le tournoi demain matin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont convenu à Khartoum d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Ils ont signé le document appelé la déclaration de Khartoum en présence du président soudanais Omar el-Béchir. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Mohamed Nagy, directeur de Soudan Tribune à Paris.
L'accord de Khartoum a été précédé par une réunion à Addis Ababa. Et là-bas, ils se sont juste chamaillés, insultés. Toi, tu m'as fait ça, et moi, je t'ai pas fait ça, etc. À partir de là, ils sont venus à Khartoum. Initialement, ils devaient signer un accord cadre. L'accord de 4 pages qu'on a reçu, grosso modo, en réalité, il ne parle que des arrangements militaires. Avant toute chose, que les deux dirigeants se sont mis d'accord pour l'application d'un cessez-le-feu permanent qui va entrer en vigueur le samedi, c'est-à-dire dans 3 jours. Ça, c'est le point phare. Donc, à partir de là, il invite l'Union africaine et l'IGAD à mettre en place toute la panoplie liée à ce cessez-le-feu permanent, y compris les observateurs, les forces de maintien de la paix, etc. Le fait qu'on va demander au Conseil de sécurité de changer un petit peu le mandat d'une force qui s'appelle la force régionale, au fait qui consiste de 4000 soldats. L'accord aussi qu'on a vu aujourd'hui, il parle de continuer les négociations pour signer ce qu'on appelle un revised bridging proposal. Ça, c'est le côté politique. Et donc, ils vont continuer dans les jours à venir à négocier, n'est-ce pas? Et le problème ici, si vous voulez, c'est le problème de la participation de Riek Machar. Salva Kiir refuse totalement de voir Machar avec lui dans le gouvernement. Et il l'accuse d'être toujours celui
le poteau de trouble.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, toujours d'amener des problèmes avec lui, ça. Ils vont continuer à négocier ça.
Est-ce que c'est un nouvel accord de paix différent de celui de 2015?
Il s'agissait de trouver les... Parce que comme vous savez, le président Salva Kiir, déjà, initialement, en 2015, s'était abstenu de la signature des accords pendant 2 semaines. Et après, sous la pression des dirigeants de la région, il a signé. Et il a signé à partir de Juba. C'est-à-dire on a amené l'accord chez lui et c'est là où il a signé. Et depuis le temps, il disait qu'il avait des réserves. Donc après, on a vu un an, Machar était rentré, Juba un an après. C'est pour tout ça pour parler combien depuis le début c'était un accord hasardeux et plein de complications. Du coup, tout le processus qui s'en suivit, c'est un processus en réalité sur les applications des accords de 2015.
Et qui n'ont jamais été réellement respectés, en fait, parce qu'ils sont battus
plusieurs fois. Ils n'ont jamais été mis en œuvre, en réalité.
Mohamed Nagy, directeur de Soudan Tribune à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Elles sont pourtant peu présentes dans les fonctions de prise de décision. Dans le gouvernement, elles ne sont que 4 sur 33 ministres. De même, sur les 114 députés, elles ne sont que 25, soit 21% seulement. Un mouvement est lancé par des femmes à Conakry pour lutter pour l'équité. Suivez le reportage de Zakaria Camara.
assise devant un plateau de légumes et fruits, au bord de la route, à proximité des ordures, rien ne semble arrêter Nsira, chef de ménage, dans la course vers son autonomisation économique. Je suis ici pour trouver à manger pour ma famille, gagner de l'argent pour payer la scolarité des enfants. Je suis veuve et donc chef d'une famille de plusieurs membres, dont ma mère.
Vous ne craignez pas pour votre santé ?
J'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Dans ce marché de la banlieue de Conakry, et comme dans tous les marchés du pays, les femmes sont les plus nombreuses. Elles représentent plus de la moitié de la population guinéenne. Mais la majorité de cette majorité constitue la couche la moins aisée, surtout la couche sous-employée pour des raisons de préjugés, de pesanteur sociale et de machisme. Le combat pour l'émancipation des femmes guinéennes est porté par plusieurs ONG. Le dernier né, pas sans elle, un mouvement de femmes intellectuelles lancé en réaction à la formation du nouveau gouvernement guinéen. Fatima en est membre.
Nous avons constaté avec regret 4 femmes au sein de ce nouveau gouvernement, tandis qu'on avait plus de 7 femmes, dont l'espoir pour nous était qu'il y ait plus de femmes au sein du gouvernement. Donc ce mouvement s'est créé suite à cette frustration de femmes.
Plusieurs dizaines de femmes, membres de mouvement, se retrouvent sur Messenger pour échanger autour de la promotion de la femme guinéenne. Fatima Camara.
Ce mouvement regroupe des femmes, non seulement de la Guinée, mais de la diaspora. Nous sommes environ 250 femmes qui se sont réunies dans un groupe Messenger afin d'échanger des idées, des stratégies, comment impacter, comment faire plus la promotion des femmes guinéennes.
La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en Guinée reste l'un des objectifs de Pas sans elle. Le mouvement se veut rassembleur et semble satisfait d'être une plateforme regroupant tous les défenseurs des droits des femmes en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le président américain Donald Trump a exhorté aujourd'hui les élus républicains du Congrès à approuver une vaste loi sur l'immigration au lendemain d'un revers judiciaire sur sa politique de tolérance zéro contre l'immigration illégale. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur émérite de l'université Johns Hopkins, William Zartman.
D'abord, je crois fermement qu'il est temps que la Chambre prenne sa décision et s'unissent autour d'une loi. Les immigrés illégaux sont illégaux selon la loi. Pour moi, la situation est très confuse. Mais j'écoute bien le débat. C'est un problème qui doit être défini pour notre pays, pour les États-Unis. Et je crois qu'actuellement, au milieu de ce débat, la presse a pris cette idée de séparation des enfants et des parents qui n'est nullement nouveau et qui a été pratiqué pendant très longtemps légalement. Mais la presse a pris cette idée comme le clé du débat, du sujet, et a passé à côté tous les autres aspects beaucoup plus profonds et compréhensive d'une loi.
Est-ce que vous pensez que le président Trump bénéficie toujours du même appui, du même soutien des républicains de la Chambre ?
Non, les républicains de la Chambre, comme les démocrates de la Chambre, comme tout le système politique américain, est sérieusement divisé. Et je crois que c'est pas un président qui a une majorité à sa commande.
Est-ce que finalement, le scandale provoqué par la séparation ces 2300 mineurs n'a pas changé le débat autour de l'immigration au jour d'aujourd'hui aux États-Unis en le rendant un petit peu plus émotionnel ?
Complètement. Et comme je viens de dire, en négligeant, en laissant à côté les aspects sérieux et plus compréhensifs de la situation. Il faudrait voir les aspects de cette situation. Il s'agit d'une immigration illégale. Tout ce qui peut les légaliser, il faut séparer les cas d'asile politique des gens qui veulent simplement venir et doivent entrer sur les quotas, doivent entrer légalement. Donc, c'est une question de légalité et c'est ça qu'il faut juger.
William Zartman, professeur émérite de l'université Johns Hopkins.
Raïssa Girondin avec vous. Washington Forum se met à l'heure du football. Deux semaines après le début de la Coupe du Monde de football en Russie, aucune nation africaine n'est qualifiée pour le moment pour les huitièmes de finale. Seul le Sénégal défend encore les couleurs du continent. Les Lions de la Teranga peuvent-ils créer la surprise ? Que s'est-il passé avec les autres équipes africaines ? L'Afrique parviendra-t-elle un jour à placer une équipe en finale ? Le football africain est-il esclave de la mondialisation ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Tiro. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni les directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont entendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Des représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois, soutenues par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants, tels que l'ICAP de l'Université de Columbia, aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique, datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de sida VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.